France Culture.
Qui sont présentés ce midi par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le deuil et les questions au Canada après l'incident survenu hier soir à Vancouver. Au moins 9 personnes ont été tuées par un automobiliste ayant foncé sur la foule. Un incident qui intervient la veille des élections législatives dans le pays. Un scrutin crucial au terme d'une campagne éclair dominée par les enjeux économiques face aux menaces de Donald Trump. S'agit-il d'un assassinat islamophobe dans le Gard, 2 jours après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée ? Le suspect est toujours en fuite et le Conseil français du culte musulman appelle les musulmans de France à une extrême vigilance. Et puis nous reviendrons sur une condamnation inédite, celle de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, jeudi, qui épingle les défaillances en matière de traitement judiciaire des violences sexuelles. On y revient donc en longueur avec notre invitée Céline Pic, porte-parole de l'association Osez le féminisme. Quelques heures après le dramatique incident survenu à Vancouver, au Canada, hier, la police exclut pour l'instant la motivation terroriste de l'automobiliste qui a foncé sur la foule lors d'un festival de rue organisé par la communauté philippine. Au moins 9 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées. Bonjour Noé Pignade.
Bonjour.
La situation continue d'évoluer, explique cependant la police canadienne.
Oui, pour l'instant, on sait que le chauffeur est en garde à vue. Il est âgé de 30 ans. Les autorités canadiennes parlent d'un suspect isolé. L'homme était déjà connu des services de police, mais pour l'heure, il ne donne aucune précision sur les faits qui lui ont été reprochés dans le passé. Sur des vidéos du drame, on le voit au volant d'un SUV noir qui fonce sur une foule très dense, une course qui dure plusieurs dizaines de mètres. Des témoins sur place au moment du drame racontent avoir entendu des hurlements, puis vu des corps écrasés par le véhicule et des enfants blessés. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour venir en aide aux nombreuses victimes de la communauté philippine. Les enquêteurs se disent, je cite pour l'instant, convaincus en effet que cet incident n'était pas un acte terroriste. Le drame survient un an après la condamnation à la prison à vie d'un suprémaciste canadien pour un attentat à la voiture bélier contre une famille musulmane. « Nous sommes tous en deuil avec vous », écrit le Premier ministre canadien Mark Carney sur le réseau social X.
Noé Pignade, le Premier ministre canadien en campagne donc à la veille des élections législatives. Il devait d'ailleurs se rendre dans cette province de Colombie-Britannique aujourd'hui pour des derniers meetings de campagne. Car demain, les électeurs canadiens vont devoir choisir entre le successeur de Justin Trudeau du Parti libéral et un candidat plus populiste du Parti conservateur, dans un contexte où l'indépendance du Canada est remise en cause par les attaques de Donald Trump et de stabilité économique menacée par le même président américain. Le Canada commence déjà d'ailleurs à ressentir les effets de la nouvelle politique commerciale des États-Unis. C'est particulièrement le cas à Windsor, qui fait face à Détroit de l'autre côté de la frontière, une ville canadienne qui dépend très fortement de l'industrie automobile. Étienne Monin.
Louise Jan dirige une entreprise qui fabrique notamment des pièces pour l'industrie automobile. L'entreprise vend presque exclusivement aux États-Unis, mais depuis Trump, c'est marée basse.
On reçoit moins de 50% des commandes qu'on a habituellement. Donc on n'a pas besoin de tout le monde pour travailler ici, parce qu'on n'a pas les commandes. Donc, en ce moment, au moins 20% du personnel est au chômage technique. Et on espère que ça va se résoudre tôt ou tard pour retourner au travail.
À quelques kilomètres de là, dans son petit pavillon, Paul Lachance a aussi fait les frais de cette guerre commerciale. Il est chef d'équipe chez Stellantis. Il a fait 15 jours de chômage technique début avril. L'onde de choc, dit-il, se propage dans la ville.
On ne travaille pas pour 2 semaines. Il y a plusieurs usines alentour qui ne travaillent pas pour 2 semaines. Il ralentit beaucoup l'économie, Même mon fils, il regarde pour l'emploi. Personne ne va engager maintenant parce qu'on n'est pas certain qu'est-ce qui va arriver dans le futur.
Le cordon qui relie Windsor aux États-Unis est un gigantesque pont bleu. 8 à 10 000 camions font la traversée chaque jour. Ryan Donnelly est le patron de la chambre de commerce.
On a autour de 50 000 employés qui travaillent dans l'industrie ici. Donc 21% de la population totale travaille dans ce secteur. Et les exportations ici pour 96%, c'est en direction des États-Unis.
Depuis Trump, l'économie ralentit à Windsor essentiellement à cause de l'incertitude et des taxes imposées maintenant des deux côtés de la frontière.
Le reportage au Canada d'Étienne Monin. Le bilan s'élève désormais à 28 morts en Iran après l'explosion hier d'une partie du plus grand port du pays. Au moins un millier de personnes ont été blessées. Une explosion probablement due à un incendie dans un dépôt de stockage de matières dangereuses et chimiques, d'après la télévision d'État iranienne. Le président Massoud Pezeghian a ordonné l'ouverture d'une enquête. C'est un défilé de fidèles depuis ce matin à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome pour se recueillir sur la tombe du pape François. Cet après-midi, ce sont les cardinaux du monde entier qui s'y recueilleront avant de se retrouver en conclave à huis clos pour choisir le successeur de François et le futur chef de l'Église catholique. Un conclave qui doit se dérouler dans la chapelle Sixtine avec un cérémonial très strict élaboré depuis des siècles. Célèbre dans le monde entier pour ses fresques de Michel-Ange, la chapelle ferme donc ses portes aux touristes à partir de demain et ce pour 3 semaines. Reportage à Rome de Boris Loumani.
Les touristes vont devoir patienter. La chapelle Sixtine retrouve pendant 3 semaines sa fonction originelle.
Ce qui est intéressant, c'est que la chapelle Sixtine, c'est une forteresse.
Maria Stella Bottaille est historienne de l'art et guide touristique à Rome.
C'est une forteresse du Moyen-Âge qui a été restaurée à la fin du XVe siècle et est devenue la chapelle Sixtine.
Cette forteresse, il faut l'aménager en y installant notamment la fameuse cheminée qui produit la fumée blanche annonciatrice du nouveau pape.
La cheminée est temporaire. En fait, si tu visites la chapelle Sixtine, normalement, les gens demandent où est la cheminée. Elle n'est pas là. Elle est simplement amenée dans la Sixtine pour les conclaves.
Dans quelques jours, les cardinaux se réuniront donc dans la chapelle pour voter. Dans le plus grand secret, Andro Mustermann est journaliste et correspondant au Vatican.
Quand un cardinal arrive aujourd'hui ou demain ici à Saint-Pierre, la première chose qu'on lui fait faire, c'est de prêter serment et qu'il ne dira jamais rien de ce qui se passe à l'intérieur. D'excommunication, donc c'est pas rien pour un cardinal. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone, tout est interdit, il n'y a pas de communication avec l'extérieur.
Et pour que vraiment rien ne filtre, les équipes du Vatican passeront la Sixtine au peigne fin, à la recherche notamment d'éventuels micros espions dissimulés dans la chapelle.
Un rassemblement contre l'islamophobie prévu à Paris en fin d'après-midi, 2 jours après le meurtre d'un fidèle dans la mosquée de la Grand Combe dans le Gard par un homme d'une 20aine d'années et toujours recherché par la police. Un acte a priori prémédité, le meurtrier ayant filmé sa victime en insultant Allah. Alors si le parquet national antiterroriste ne s'est pas encore saisi de ce dossier, ce n'est pas le cas de la classe politique, on va y revenir. Bonjour Servane de Pastre.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Alors d'abord, où en est l'enquête et qu'est-ce qui permet de qualifier cet acte d'islamophobe?
Alors ce que l'on sait ce dimanche midi, c'est que le suspect est un jeune homme âgé d'une 20aine d'années et de nationalité française. Il est par ailleurs sans emploi et n'a pas de casier judiciaire. Les faits, eux, se sont déroulés vendredi matin. Le suspect a donné 10aine de coups de couteau à un jeune homme d'une 20aine d'années qui était venu faire le ménage bénévolement dans la mosquée avant la prière. L'auteur présumé de l'attaque s'est ensuite filmé avec sa victime agonisante, insultant Allah. Et c'est cette vidéo notamment qui alerte le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini. Il décrit quelqu'un de potentiellement extrêmement dangereux et qui pourrait recommencer. Toutes les pistes restent envisagées par les enquêteurs concernant les motivations du jeune homme, dont celle d'un crime raciste et islamophobe, précise le procureur. Le Conseil français du culte musulman a appelé les musulmans de France à une extrême vigilance.
Alors un appel au rassemblement a d'ores et déjà été lancé à Paris ce soir à 18h. Rassemblement auquel participeront plusieurs élus de gauche, Servane.
Oui, notamment l'eurodéputé Rima Hassan, le député LFI Éric Coquerel ou encore Marine Tondelier ont relayé cet appel sur les réseaux sociaux. Une mobilisation contre l'islamophobie qui se tiendra place de la République. Vendredi, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, également chargé des cultes, a dénoncé un événement épouvantable sans pour autant prévoir de déplacement, ce qui lui a valu des critiques de la gauche, notamment le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dénoncé quant à lui un assassinat horrible. Hier, le Premier ministre François Bayrou est le seul à oser le mot. Il a dénoncé hier une ignominie islamophobe sur le réseau social X.
Les explications de Servane de Pastre pour France Culture. La justice française ne protège pas suffisamment certaines victimes de violences sexuelles. C'est en tout cas l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dans un arrêt rendu cette semaine, condamne la France en raison de défaillances dans le traitement judiciaire des viols dont ont été victimes 3 mineurs. Bonjour Céline Pic.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de l'association Oser le féminisme. Alors la CEDH pointe les stéréotypes sexistes dont les victimes ont fait l'objet de la part des magistrats et épingle la France pour la victimisation secondaire que la procédure a entraînée pour les victimes. Alors en quoi cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a un caractère historique ?
Cette condamnation est historique puisque c'est la première fois que la France est condamnée, non pas pour une mise en cause de sa loi, mais une mise en cause extrêmement forte et percutante des pratiques des magistrats. La pratique des magistrats est souvent qualifiée de souveraine. En réalité, elle ne peut pas adopter des stéréotypes sexistes, des biais scandaleusement honteux qui visent à minimiser les faits et à effectivement produire une victimisation secondaire des plaignantes. Et dans les explications de la CEDH, le jugement est sévère contre la France et contre les pratiques non seulement des policiers, mais aussi des magistrats. Il rappelle que en particulier, il y avait trois affaires, dont une qui a été extrêmement médiatisée, qu'on appelle l'affaire Justice pour Julie. Julie, dès le démarrage de l'enquête, a subi des propos moralisateurs, culpabilisants. Ensuite, les magistrats, au moment de l'instruction, n'ont pas tenu compte de son état extrême de vulnérabilité. Elle était dans une situation de grande souffrance psychique, et ce sont ces crises de panique qui avaient fait venir des pompiers qui, ensuite, ont violé Julie pendant des mois et des mois. Et là, la Cour européenne des droits de l'homme est implacable dans ses condamnations. Elle dit que les pratiques judiciaires ont visé à exonérer les auteurs des faits de leur responsabilité. Et donc, la condamnation, elle est aussi sévère. Elle est faite au titre de l'article 3, c'est-à-dire des traitements inhumains et dégradants. Et on ne parle pas des viols qui ont été commis contre ces trois mineurs, mais on parle de la façon dont la justice a traité les victimes lors de l'instruction et lors de la procédure judiciaire. Elle dénonce également l'absence de célérité, 8 ans d'attente parfois pour finalement n'avoir jamais de procès et voir les faits déqualifiés par la justice. Et elle condamne également l'article, et ça aussi c'est extrêmement historique et important, au titre de l'article 14, l'article qui traite de la discrimination, et donc elle juge la France ayant un traitement discriminatoire, ouvertement donc sexiste, envers les victimes de violences sexuelles. Et donc c'est effectivement un jugement qui devrait, je l'espère, faire réagir le ministère de la Justice. Nous on dénonce le caractère parfois sexiste des magistrats, et on le demande depuis très longtemps. La CEDH le confirme aujourd'hui. Nous avons besoin d'avoir des formations de façon systématique des magistrats pour faire cesser ces biais sexistes à base de stéréotypes qui sont contraires au droit et à l'impartialité de la justice.
Alors vous soutenez, à l'époque vous étiez mobilisé, en tout cas Oser le féminisme s'était mobilisé dans cette affaire Justice pour Julie. Aujourd'hui vous êtes aux côtés des victimes d'une autre affaire qu'on appelle l'affaire French Bukkake. Donc c'est la première grande affaire du porno amateur en France, dans laquelle 16 producteurs sont aujourd'hui renvoyés pour proxénétisme, viol en réunion et traite d'êtres humains, et qui font face à 32 plaignantes. Ces 32 plaignantes ont formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation pour que soient retenues d'autres circonstances aggravantes. Elle parle la même manière que Julie, elle parle là aussi, ces plaignantes, d'un déni de justice.
Oui, en fait, c'est ça qui est absolument dramatique. À Oser le féminisme, nous avions organisé des manifestations pour dénoncer ces biais de la justice en 2020 dans l'affaire Justice pour Julie. Ben aujourd'hui, 5 ans après, en fait, on dénonce exactement les biais sexistes de la chambre de l'instruction dans l'affaire French Bukkake. Et on se retrouve aujourd'hui avec des motivations de la chambre d'appel de l'instruction, dont nous avons dévoilé un certain nombre d'extraits lors de la sortie de notre communiqué de presse vendredi, qui sont absolument scandaleux. Alors, je vous prends deux exemples qui vont vous parler de façon très claire. Les pornocrates sont poursuivis pour viol aggravé, proxénétisme aggravé et traite des êtres humains. Or, la chambre de l'instruction a rejeté les qualificatifs d'actes de torture et de barbarie. Et quand on lit les motivations, c'est absolument scandaleux. Ils disent que les femmes ayant été droguées et alcoolisées, parfois même à leur insu, elles n'ont pas éprouvé suffisamment de souffrance. Leur souffrance a été atténuée. Et donc, de ce fait, on rejette la qualification d'acte de torture et de barbarie. Donc, en fait, si ces femmes ont été droguées, alcoolisées, ça s'appelle de la soumission chimique. On est dans le même cas que l'affaire Gisèle Pélicot. Mmh. C'est beaucoup plus facile de violer, de torturer une femme une fois que vous avez altéré sa conscience. Ça a été une stratégie, ça fait partie de la stratégie coercitive de ces producteurs de porno. Et là, c'est retenu à charge contre elles en disant, ah bah, comme elles étaient droguées, elles n'ont pas si souffert que ça. Et puis, tout est du même acabit. Ensuite, la chambre de l'instruction continue avec en particulier il motive le fait qu'il rejette le qualificatif de sexisme parce que elles ont été insultées de vide couille, de salope, de pute, donc des choses extrêmement dures. Et ben là aussi, il le rejette en disant que ce n'avait pas porté atteinte à leur honneur et à leur dignité.
Merci.
Et dernier exemple très rapidement sur la qualification de proxénétisme qui est interprétée de façon extrêmement restrictive et extrêmement biaisée en épousant vraiment les propos de la défense, et là on nous sort effectivement que tout ne peut pas être qualifié de proxénétisme,
et vous tenez
parce qu'il y a du cinéma,
et vous
que
tenez
ce serait
une
du cinéma et une œuvre cinématographique, et ça aussi c'est absolument scandaleux, ce sont des viols filmés.
Merci beaucoup, Céline Pic. Merci beaucoup, Céline Pic. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Un mot de météo avec des averses attendues cet après-midi sur la moitié sud du pays. Un ciel très nuageux sur le Grand Est. De belles éclaircies à l'ouest. Les températures maximales sont en hausse. 18 à 22 degrés attendus sur la majeure partie du pays.